Bien, bonsoir mes jeunes chenilles véridiques en plein processus de liquéfaction. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui parce que je suis présent pour vous offrir mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC 261, The Big One, comme ils disent, bien qu'on dirait que le niveau d'excitation ne suit pas dans mon cas pour cette carte-là. Je dois vous avouer, bien franchement, je ne sais pas si c'est un phénomène annuel, parce que je me rappelle que pas mal à pareille date l'an passé, je passais mon temps à ne pas être hype du tout pour la carte qui allait nous offrir le premier combat là, de cette série de deux combats entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal. Et puis, ben, c'est ça. Un an plus tard, je me trouve ici, en fait, pas plus motivé pour ce rematch et pour cet événement. Pour de nombreuses raisons. Pour de nombreuses raisons, dont on va probablement parler d'ailleurs. Mais c'est ça. Je ferai mes analyses et prédictions pour chacun de ces combats-là. Il y a trois title fights, le restant de la carte. Écoute, c'est ça l'affaire. C'est que c'est pas tant une grosse carte. C'est une bonne main card avec des noms connus. On sait pas si les match-ups vont tant se matérialiser, par exemple. Les prelims, ça est ordinaire, puis plus tu descends sur les prelims, plus ça devient ordinaire. Donc, tu sais, c'est pas un méga événement super stack, là, comme l'UFC nous habitue au moins une à deux fois par année. Il y a trois titles offerts, c'est une bonne carte, il y a des gens qu'on connaît, mais je sais pas, il manque un petit quelque chose, là, selon moi, sur cet événement-là, pour que je sois complètement hype. Et ça va peut-être un peu avec les décisions de l'UFC là, récemment, je vous dirais, de first ramener. On le savait, là, on le savait que dès qu'un État allait réouvrir au complet, l'UFC allait faire des événements devant un full crowd. Puis tu sais, ils font ça au prochain pay-per-view et tout, qui est au Texas, si je me trompe pas. Puis ensuite, ils font ça pour le Conor McGregor fight qui va être à Vegas. Puis on dirait que je suis plus confiant pour ces événements-là, côté genre public, attendance, je sais pas, j'ai comme la Floride, là, c'est tellement un esti de free-for-all, cette place-là. Puis tu le sais que, oui, là, la pandémie s'essouffle, mais on est encore en pandémie, en théorie, puis tu le sais qu'il n'y aura aucune mesure, là, aucune rien. Là. Là-bas, c'est comme, c'est optionnel, tu peux porter un masque si tu veux, t'es pas obligé si tu veux pas, puis c'est écrit sur le billet. Tu sais, en fight print, que ça se peut que tu meurs, dans le fond. Si tu attends cet événement-là, tu pognes la COVID, puis t'en meurs, ben ça se peut. Et puis, ben c'est pas la faute de l'UFC. Tu peux rien faire. Tu peux pas les poursuivre ni rien. Donc, légalement, ils ont pris leurs précautions, là, mais est-ce qu'ils vont prendre leurs précautions vraiment? Puis, tu sais, je parle au niveau des fighters. J'ai checké toute cette semaine la conférence de presse. Puis, j'ai l'impression que, genre, les fighters sont-tu testés encore? Ou c'est juste, il y a peut-être des gars qui vont se battre avec la COVID, genre, parce qu'à toutes les semaines, il y a des fights qui pull out parce que les gens pognent la COVID. Mais là, est-ce qu'il y a même du testing, genre, dans cette fight week-là? Ou c'est juste vraiment comme, tout ça n'est jamais arrivé, business as usual, on est en Floride, puis on se colle un masque sur les yeux pour être sûr de ne pas voir vraiment ce qui arrive. Puis en tout cas, bref, on va parler de ça, on s'en crisse, on va parler des combats. Usman Masvidal, c'est votre main event, le rematch. Et puis, tabarnouche, man! C'est bizarre qu'est-ce qui est arrivé depuis le premier combat. Parce que, tu sais, on a Jorge Masvidal qui est arrivé, puis qu'il y a eu sa résurrection, sa renaissance. Là. Il a knocké Darren Till, ensuite le knockout absolument incroyable sur Ben Askren qui est historique. Puis là, il devient, tu sais, le BMF, un des personnages les plus populaires, les plus appréciés en MMA. Puis j'ai l'impression que depuis le BMF title fight, et même depuis le premier combat avec Usman, Son image publique, la façon dont il est apprécié publiquement, ça a juste diminué. Puis pas autant pour moi que pour tout le monde, j'ai l'impression. Tu sais, personnellement, là, si vous voulez mon avis personnel pour ce combat-là, j'espère que Kamaru Usman gagne. Là. C'est pour Kamaru Usman que je prends dans ce combat-là. Puis pourtant, Masvidal était le combattant le plus populaire, le combattant le plus aimé par tous les hardcore fans. Là, même pas un an de ça, puis c'est-tu que ça en est passé des affaires depuis, là, du fait que oui, on s'entend ça, on ne peut pas vraiment hold ça conclu parce que c'est presque tous les fighters de MMA, malheureusement, que c'est ton fighter préféré, c'est ton fighter préféré jusqu'à temps que tu entendes son opinion sur la place publique, puis après ça, t'es genre, oh, sacrement, ok, c'est bon, tu penses ça, toi, vraiment, genre, puis on va avoir la chance d'en reparler, là, faites-vous-en pas avec le co-main event, mais non, c'est ça. Super right-wing Trump guy qui essaie de combattre le socialisme et la gauche, comme s'il y avait ça politiquement aux États-Unis, la gauche. Et puis, entraîne Jake Paul. pour son combat contre Ben Askren. Fait que je sais pas, on dirait que Jorge Masvidal a un peu viré sur le dark side. Puis ça fait que, en tout cas, je prends pas pour lui dans ce combat-là. J'espère que Usman va gagner. Puis malheureusement, on l'a vu dans le premier combat, la manière de Kamaru Usman de gagner un combat contre Jorge Masvidal est pas le fun, là. Parce que on l'a vu dans le premier round du premier combat. Usman est un bon fighter, très bon striker, est excessivement durable si on l'a vu face à Gilbert Burns, mais n'est pas aussi confortable que Masvidal debout. Puis on l'a vu que s'ils ont des échanges prolongés de striking dans ce combat-là, ça va être très serré. Ça va peut-être même être en faveur de Jorge Masvidal dans certains moments. Puis on le sait. Que le nouveau Jorge Masvidal, la seule chose qui a vraiment changé dans sa game, c'est qu'il est opportuniste maintenant. Là. Il saute sur l'occasion qu'il voit. Avant, il ne sautait pas sur l'occasion parce que dans sa tête, il gagnait, anyway, parce que tu lui faisais pas mal. Puis il n'y a rien que tu faisais qui l'embêtait vraiment, même si tu avais du succès un peu dans certains aspects. Donc, il sautait pas sur les opportunités de te finir parce que là, je gagne ce combat-là. Puis à la fin, il se rendait compte qu'il venait encore de perdre une split decision super louche. Puis il était mad. Puis là, il a comme éliminer ça quand il voit la chance de sauter son adversaire puis de le finir, il apprend. Il est devenu très opportuniste. Puis c'est ça un peu la résurrection de Masvidal. Parce qu'on l'a vu là, dans le dernier combat son contre Usman. Encore très, très, très difficile pour lui de sortir de son dos contre la cage. C'est là qu'il est le moins bon. Puis tu sais, c'est Kamaru n'utilise pas encore ça pour gagner le combat. C'est un peu contre sa part parce que c'est encore sa façon claire, nette et précise de gagner ce combat-là. C'est d'être celui qui met la pression, de forcer Masvidal à être sur le reculon, échanger debout jusqu'à temps qu'il soit capable de couper la distance puis aller dans le clinch. Puis là, dans le clinch, il va crisser Masvidal contre la cage. Il va attendre là le plus possible. Il va lui donner les trademarks, les fameux foot stomp du premier combat. Et puis, je pense qu'on va basically avoir un genre de combat semblable au premier parce que, oui, Usman est maintenant avec Trevor Whitman. Oui, ça ne me surprendrait pas qu'on voit dans les prochains combats un Usman plus game de striker, plus game d'essayer de finir ses adversaires debout. Je ne sais pas si tu prends cette chance-là contre Jorge Masvidal, par exemple. Je ne sais pas si ça serait intelligent de prendre cette chance-là contre Jorge Masvidal. Puis, Kamaru Usman, s'il y a une chose qu'on doit vraiment reconnaître, c'est qu'il a toujours été un combattant très stratégique et très intelligent, qui n'a jamais vraiment... C'est pas le gars qui va prendre le deuxième game plan le plus facile pour gagner. Il va prendre le game plan le plus facile pour gagner. Il va prendre la façon la plus simple d'aller gagner son combat. Puis c'est pas le combattant que ça lui dérange le plus si c'est plate. Fait que je pense qu'on va avoir un match-up semblable au premier combat. Et puis, ben, Kamaru Usman va gagner par décision ici, selon moi. Ça nous mène au co-main event. Oh non. Tabarnouche, qu'est-ce qui est arrivé ici, guys? Parce qu'on s'entend, c'est le meilleur combat sur la carte. Je pense que tout le monde s'entend pour dire ça. C'est le meilleur combat, le plus excitant, le plus close, le plus d'intrigue. On se demande ce qui va arriver parce qu'on a vu des belles choses de Wiley Zhang, mais il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore vues de Wiley Zhang. Puis Thug Rose, on le sait quand elle est on, quand elle est au top. Genre, qu'est-ce qu'elle peut nous offrir comme genre de performance? Puis tabarnouche, qu'est-ce qui est arrivé dans le build-up de ce combat-là? Parce que... Je sais que les fighters d'MMA ont besoin de quelque chose là, pour se motiver là, contre leur adversaire. Mais Thug Rose, man. Thug Rose qui a l'air plus insécure que jamais un peu dans le build-up de ce combat-là, qui essaie de se monter des histoires de... Moi, je viens de la Lituanie, puis ça, c'était dans l'URSS, donc c'était communiste. Donc là, ma famille a souffert du communisme avant de s'en venir aux États-Unis. Donc là, pour cette raison-là, je veux vraiment péter la gueule à Wiley Zhang, parce que c'est une Chinoise, puis en Chine, ils sont communistes. Puis... Tu sais, Wiley Zhang, là, elle n'a pas choisi où elle est née, tu sais, elle est juste née à quelque part de deux parents chinois en Chine. Et ça fait que ben, c'est une Chinoise, puis qu'elle aussi, elle souffre du communisme, dans le fond. Elle aussi, elle souffre du régime chinois qui, clairement, traite pas bien sa population. Puis on ne rentrera pas dans la politique internationale ici, là, mais vous le savez bien qu'en Chine, c'est pas ça à coche vive, là, même encore de nos jours. Puis ouais, les gens, c'est juste... un produit de ça. Là. C'est pas de sa faute à elle. Puis elle ne représente pas le communisme chinois. C'est pas une politicienne, c'est pas une décideuse, c'est pas quelqu'un qui a rapport dans ce qui se passe politiquement en Chine. Donc, d'essayer de se build contre Wiley Zhang en abordant cet angle politique, le communiste de genre. Puis en plus, elle aborde ça sous un angle de « Ah, oh, puis les Chinois sont super patriotiques. » C'est pas toi là, qui a l'air de la classique américaine full patriotique. « Oh, on va péter les communistes, nanana. » C'est pas mal toi qui joues ce game-là, le Tug Rose. C'est pas Wiley Zhang. Puis en plus, y a-tu une... T'sais, je le sais que c'est limité, le contenu qu'on a sur Wiley Zhang, parce qu'elle parle pas très bien en anglais, tu sais, la petite, puis tout, mais tout ce qu'on a eu la chance de lire sur elle, de voir sur elle, ça a tellement l'air d'une personne sweet et gentille, et tu sais, qu'il n'y a pas un mot à dire sur personne vraiment, puis qu'il y a juste une guerrière, genre d'honneur, qui veut aller combattre, puis défendre son titre pour montrer qu'elle est la meilleure au monde, puis... Ah, man, comme je vous dis, hein, quand nos fighters préférés, parce qu'on s'entend à Tug Rose, mes fighters préférés, là, genre côté féminin, moi, c'est Joanna Jędrzejczyk, ma préférée, vous le savez tous. Puis après ça, c'est pas mal Tug Rose, là, en termes de style dans la cage, de ce qu'elle amène comme combat, de son demeanor, puis tout avant. Puis là, on dirait que ça a changé ici, ici, puis ça fait que, man. Mais je sais pas, man. Je sais juste pas quoi dire. C'est bizarre. Puis je comprends pas pourquoi les fighters, ils font ça. Puis pour ce qui en est du combat, ben, ouais, les gens vont gagner, là, entre vous et moi. Parce que, dans le fond, je voudrais bien commencer à techniquement analyser tout ce combat-là. Puis je pense que oui, si ce combat-là se déroule debout, chose qui va probablement arriver, ça va être un esti de firefight. Ça va être complètement malade. Ça va être back and forth, des momentum swings, puis tout. Mais, j'ai pas le choix de favoriser Wiley Zhang, puis c'est pour la physicalité. Parce qu'on s'entend que Tug Rose, c'est la chose qui manque. Elle est athlétique, elle est rapide, elle est bonne, elle est skilled. Là, son niveau technique debout est absolument incroyable. C'est une très bonne grappler aussi. Elle a une takedown game serviceable, mais elle s'en fout à pull guard même des fois. Là, Tug Rose, elle, ça ne dérange pas. Puis, tu sais, vraiment une bonne combattante, intelligente, stratégique, dirigée par Trevor Whitman. Donc, elle arrive toujours avec un nested game plan magnifique qu'elle est capable d'exécuter. L'affaire, c'est que Wiley Zhang, c'est un spécimen physique. C'est un spécimen physique qui est pas ennuyé, on dirait, par rien de ce que ses adversaires lancent. Puis je pense qu'elle va juste rester là puis manger ce que Rose a donné puis lancer plus fort en retour puis plus... T'sais, plus solidement, plus de façon plus affirmative en retour. Puis s'il y a des tie-up, du clinch, moindrement du grappling dans ce combat-là, j'ai l'impression que ça va être difficile pour Tug Rose d'essayer d'amener Wiley Zhang où elle la veut. Je pense que ça va être plus facile pour Wiley Zhang de juste être la grosse brute physique qu'elle est, puis de plus refaire Tug Rose là, t'sais, dans ces éléments-là. Donc j'ai l'impression que ça va être un combat qui va aller en faveur de Wiley Zhang. Puis l'affaire vraiment intéressante là, dans ce combat-là, c'est que... Puis c'est les gars de Bloody Elbow là, qui notaient ça dans le preview que j'écoutais. Tug Rose, c'est la genre de combattante qui va dans son coin, qui sort de son coin super confiante, puis qui commence le round en pleine confiance. Puis plus le round avance, plus il se passe des choses qui sont un peu en dehors de son game plan, puis qui fait que plus le round avance, plus on dirait perd confiance dans le round. Donc, Tug Rose est vraiment quelqu'un qui a des bons débuts de round, puis des moins bonnes fins de round. Wiley Zhang, c'est absolument l'inverse. C'est une fille qui va, on dirait, commencer ses rounds un peu plus slow. Puis là, quand elle se rend compte après 2 minutes, hey, je pense pas que je gagne ce round-là finalement. Mais là, elle turn up la machine, puis elle a vraiment des très bonnes deuxièmes parties de round généralement. Donc, ça pourrait très bien être un combat où Tug Rose gagne les 4 ou 5 premiers débuts de round, puis Wiley Zhang gagne les 4 ou 5 fins de round, puis qu'on se dit, non, okay, comment tu scores ça? Puis comment tu scores ça? Puis comment tu scores ça? Fait que ça pourrait être un combat assez difficile à scorer. Moi, je pense que Wiley Zhang va la finir, honnêtement. Je pense que dans les derniers rounds, la physicalité de Wiley Zhang, le fait qu'elle frappe tellement fort, puis qu'elle est tellement raide, puis qu'elle est là, elle est dans ta face pendant 25 minutes, on l'a vu contre Joanna. Si elle est capable de garder cette pace de débile mentale-là contre Joanna pendant 25 minutes, elle peut faire ça contre n'importe qui. C'est pas compliqué. Donc, je m'inquiète pas. Est-ce que Wiley Zhang va ralentir? Est-ce que Wiley Zhang... Ça arrivera pas. Donc, le fait d'être grosse, d'être physique, de faire mal, de frapper fort, puis d'être dans face à Tug Rose pendant tout le combat, je pense que ça va donner un TKO pour Wiley Zhang à quelque part au 4e round. Ensuite, Valentina Shevchenko, Jessica Andrade. Et puis, il faut que je vous le dise, moi, personnellement, Valentina Shevchenko, il n'y a pas vraiment aucun combattant que je trouve plus boring que ça dans tout l'UFC. Genre, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les combats où, tu sais, ça clinche beaucoup dans la cage, puis ça grapple beaucoup. Quelqu'un va aller chercher un takedown, puis il va garder le top control, puis va contrôler pendant 15 minutes. Les gens n'aiment pas vraiment ça, ces genres de combats-là. Moi, le genre de combat que je déteste le plus au monde, c'est une counter-striker qui ne veut pas lead sous aucun prétexte. Puis ça, c'est exactement Valentina Shevchenko. Valentina Shevchenko va être la personne qui va toujours laisser l'action venir à elle puis qui va essayer de répondre aux actes de son adversaire et dans le but de contrôler le combat. C'est une control fighter, autant debout que son contrôle. Qu'est-ce qu'elle contrôle? C'est la distance, dans le fond. C'est une maître pour contrôler la distance entre elle et son adversaire. Puis toujours rentrer, lander ses attaques, puis sortir pour s'assurer d'être dans un reach où son adversaire ne pourra pas la toucher. Et puis, si ça ne marche pas, puis on le voit de plus en plus dans certains derniers combats, tellement que je pense que ça devient pas mal la pièce centre de sa game, c'est les takedowns. T'sais, si Valentina Shevchenko n'est pas capable de te garder à une distance qui est raisonnable, elle va switch son level, elle va te sauter dans les jambes, elle va te take down, puis là, au sol, elle va se mettre dans ta garde ou en half guard, puis elle va te contrôler là. Puis oui, elle va lander un peu de ground and pound pour rester actif, pour garder la position, mais c'est pas quelqu'un qui essaie de t'avancer la position. C'est pas quelqu'un qui essaie de t'en faire rien d'autre qu'être en contrôle pendant 25 minutes, puis si son adversaire va assez à elle, puis la force assez à se battre, ben là, elle se bat, puis tu vois qu'elle est assez incroyable, merci. Mais si son adversaire ne la force pas à se battre, c'est pas une combattante qui va vraiment se battre. Ceci étant dit, c'est Jessica Andrade, elle ne va absolument pas, sous aucun prétexte, laisser du temps à Valentina Shevchenko pour réfléchir. C'est The female John Lineker, on s'entend, cette fille-là, va avancer, va mettre beaucoup de pression, puis va lancer des combinaisons body-head. C'est ça qu'elle fait. Quand ça marche pas, elle clinche, puis elle essaie de surtout prendre un gros single leg, puis te lever, puis te slammer. Puis si t'es ta grosse, puis tu prends une Kimura, elle va te slammer sur ta tête, puis te tuer. Si tu fais pas ça, ben, elle ne va pas slammer sur ta tête, mais définitivement est une combattante qui va essayer de t'amener au sol pour continuer là, son offensive. Puis ça fait que, ben, elle est dure à dealer avec parce que son pace est absolument fou. Puis c'est pas quelqu'un qui ralentit non plus ça dans ses combats. T'sais, on le voyait contre Thug Rose, le rematch, probablement si c'était 5 rounds ce combat-là, on allait voir là, Jessica Andrade un peu take over dans les derniers rounds parce que Rose semblait ralentir dans ce combat-là, semblait peut-être un peu moins en mesure de gagner. Et puis, je pense que, ben, en fait, je pense pas. Je sais que Valentina va gagner. Je pense qu'elle va finir Andrade. C'est ça que je m'en allais un petit peu. Je pense que Jessica Andrade, s'il y a une combattante qui va forcer Valentina à se battre, qui va forcer Valentina à nous donner un combat qui va être entertaining, c'est Jessica Andrade. Puis oui, un peu tricky pour quelqu'un comme Valentina qui aime vraiment pas se retrouver dans des échanges. C'est quelqu'un qui déteste se retrouver dans des échanges où il y a des punches qui fly des deux côtés. C'est Valentina Shevchenko. Elle est habituée de lander ses attaques, sortir, ne pas être touchable en retour, puis vraiment commander le range comme ça. Puis Jessica Andrade, peut-être qu'elle réussira pas à couper cet aspect de la game-là de Valentina. En fait, fort probablement qu'elle réussira pas. Mais elle va tout essayer pour rendre ça vraiment inconfortable. Puis, ça peut être le genre de combattant qui rend ça très inconfortable pour Valentina Shevchenko. Donc, comment je vois ça finir? Une de deux façons, soit que Jessica Andrade met tellement de pression que Valentina le revert vraiment, c'est takedown beaucoup là, dans ce combat-là, puis va chercher soit un TKO au sol ou une soumission, genre Rear Naked Choke, ou Side Choke, là, arm Triangle Choke, de quoi de même. Ou la version le fun, puis je pense que la version que je vais prendre, c'est Jessica Andrade qui se calisse tête première dans un head kick. Puis, il me semble que j'ai vu cette image-là dans ma tête, là, arriver à plein de reprises, puis je peux comme pas y aller contre. Fait que j'ai Valentina Shevchenko, troisième ronde, TKO, head kick. So, on passe au combat le plus attendu des 10 dernières années. Le rematch que tout le monde voulait voir, le rematch que si on voit pas, là, notre vie, elle ne sera pas complète, tout simplement. On ne sera pas des gens comblés et heureux parce qu'on n'aura jamais vu le rematch tant attendu entre Uriah Hall et Chris Weidman. Puis écoute, vous le savez comment ça va aller ce combat-là, tout le monde le sait comment ça va aller ce combat-là. Chris Weidman va out-wrestle Uriah Hall pendant 2 rounds et demi, va graduellement être de plus en plus gaz-out. Puis à quelque part au 3e round, ça ne marchera rien que plus tellement qu'il va être gazé puis il va se faire brutalement knocké par Uriah Hall. Donc j'ai Uriah Hall par 3rd round KO ici. Et ça nous mène à un autre combat, le dernier sur la main card. Anthony Smith, Jimmy fucking Crute. Et puis, j'ai quasiment l'impression que c'est une race au takedown, ce combat-là. Genre, le premier qui va lander takedown puis qui va s'installer sur le top de son adversaire va avoir de très bonnes chances de gagner ce combat-là au premier round. Puis j'ai l'impression que s'il n'est pas gagné au premier round, ça va être une décision. Parce que Anthony Smith, c'est quelqu'un que tu peux vraiment cut cold. Il n'y a pas des bons débuts de combat habituellement. Puis c'est absolument ça qui me fait pick Jimmy Crute ici. Là, parce que si Anthony Smith arrive, puis niaise pas, lande une bonne combinaison pour camoufler son takedown, puis passe soit un takedown ou va en clinch, puis bodylock takedown Jimmy Crute, puis s'installe sur le top. Il peut absolument le soumettre. Il peut absolument le soumettre, les deux gars. On a vu que la place où il va se retrouver que c'était plus difficile pour eux, c'était sur leur dos, dans les deux cas. Donc, si Anthony Smith arrive et niaise pas, puis lande le takedown de début du combat, il peut très bien gagner ce combat-là. Par exemple, c'est pas caractéristique de sa part habituellement. C'est quelqu'un qui prend un peu plus de temps. Oh, désolé. Avant de se mettre dans sa game et tout. Et puis, écoute, ça fait que je pense que Crute va gagner. Basically, je pense que Crute va réussir à lander le premier takedown dans ce combat-là, mettre de la pression sur Anthony Smith tout le long, puis vraiment faire ressortir le Anthony Smith un peu résigné là, des derniers combats, qui est sur son dos, qui gagne pas, qui est trop tough pour se faire finir ou pour abandonner, mais qui ça marche rien pas vraiment bien pour lui dans ses combats. Puis je pense que c'est ça qu'on va voir aussi. Fait que j'ai Jimmy Crute par décision. Puis on passe sur les prelims. Alex Oliveira, Randy Brown, dans le seul combat que je n'ai pas encore pick, si je le sais vraiment pas qui va gagner ce combat-là, parce que la réponse, j'ai l'impression, à mon interrogation, c'est une réponse qu'on n'a pas vraiment encore. Dans le sens que Randy Brown et Alex Oliveira sont tous deux habitués d'être le fighter le plus rangy, d'être le gars le plus long, d'être le gars qui peut travailler at range derrière un jab. En fait, pour Randy Brown, là, Alex Oliveira, il aime juste être at range puis exploser, leap in avec une grosse main arrière puis des affaires de même. C'est pas le gars qui travaille le plus son jab puis des petits kicks pour set up ses attaques. Ça, c'est plus la game à Randy Brown qu'Alex Oliveira. Et puis, je me demande comment ils vont réagir au fait que leur adversaire veut basically debout pratiquer la même game qu'eux, puis est basically confortable dans les mêmes paramètres l'un que l'autre. Puis ça fait que je ne sais pas comment ils vont dealer avec ce que l'autre leur amène. Parce que quand t'es habitué de toujours être le plus rangy, de toujours être celui qui a le plus de reach, puis de travailler à distance, puis que la personne coupe pas bien ton range, puis a de la misère à rentrer dans ta distance, quand t'as pas un autant long que toi, tu fais quoi? Genre quelqu'un qui peut te reach d'où d'habitude t'es, puis personne peut te reach. Je me demande comment les deux vont réagir. Puis tu sais, honnêtement, j'ai vu les deux mal réagir dans des situations là, un peu semblables, quand ils affrontaient des tests qui étaient pas habitués d'affronter des styles de combattants un peu plus différents, un peu plus moins général. On les a vus tous les deux avoir des problèmes là, à ce niveau-là. Je pense que mon pick, ça va être Randy Brown. Plus j'y pense, parce que il est plus fiable que Cowboy Oliveira, là, tout simplement. Cowboy Oliveira, c'est quelqu'un que tu peux arriver puis il va être un World Destroyer au premier round, puis ça va gravement genre baisser le régime après le premier round, puis qu'au 3e round, il est rendu un peu une lock, un peu gas-out, que tu sais pas trop ce qu'il fait, puis qui lui non plus sait pas trop ce qu'il fait, puis qu'il essaie de l'amener les gros power shots qui vont finir le combat, même s'il n'y a plus vraiment le jus derrière ce shot-là pour vraiment finir le combat. Randy Brown, lui, on l'a vu peut-être un peu plus se faire dominer, je pense, au niveau du grappling, mais c'était capable de le takedown puis de le mettre en dessous. C'est là que tu peux avoir du succès contre lui, bien qu'il y ait des grandes jambes, puis il est un peu tricky avec ça quand tu réussis à travailler alentour de tout ça. C'est un combattant qui est D-Lab avec. Mais ouais, je pense que je vais y aller avec Randy Brown par décision. Tout simplement par le fait que je pense qu'il va être plus constant dans ses attaques. Je pense qu'il va garder le même pace tout au long du combat. Chose sur quoi je ne peux pas vraiment me fier de la part de Cowboy Oliveira, qui va sûrement commencer balls to the walls puis qui va finir comme Cowboy Oliveira finit ses combats habituellement. Puis l'affaire aussi, c'est que Cowboy Oliveira est moins durable. Cowboy Oliveira est moins durable que Randy Brown. Randy Brown a vu se faire finir par le style d'Hammer Fist bizarre de Nico Price. Je ne sais pas à qui ça serait pas arrivé. Ça, c'était tellement weird. Alex Oliveira, on l'a vu souvent avoir des combos où ça allait bien. Puis à un moment donné, boum, il arrive de quoi, puis ça va plus bien. Puis là, rapidement, tu vois le gars, il cherche un way out. C'est pas quelqu'un qui deal le mieux avec l'adversité. Puis Randy Brown, ça semble un peu moins être un problème. Donc, je m'attends à ce que Cowboy puisse en mettre plus sur Randy Brown que Randy puisse en mettre sur Cowboy. Puis ça fait que d'après moi, Randy va gagner. Ça nous mène Dwight Grant, Stephen Sekulé, que si Dwight Grant se bat bien, il va absolument gagner ce combat-là. Peut même le finir au premier round. Il va avoir un immense avantage de range sur son adversaire. Il va être plus athlétique, plus explosif, plus puissant que son adversaire. Puis juste avoir un style plus fiable, c'est cool que l'air d'être pas mal bouncy sur ses pieds, vouloir y aller de beaucoup de kicks, un style plus traditionnel, genre ton karaté, taekwondo, pas nécessairement le grappling pour backup, tout ça quand tu te fais sauter dans les jambes. Fait que, c'est sûr que Dwight Grant est lui-même pas le meilleur des lutteurs. C'est un bon offensive wrestler, defensive wrestler, moi un peu moins des fois. Le gars, il me fait penser à Dwight Grant, il me fait penser à Derek Brunson sans sa lutte. Dans le fond, un petit peu comme style de combattant. Fait que, tu sais, puissant, debout, garde un bon range, mais il est capable de leap in avec des bonnes combinaisons pour faire mal à ses adversaires. Comme il est capable de coller son jab d'en face pour te faire bien chier pendant un petit bout d'at range. Fait que je pense que Dwight Grant peut aller chercher le TKO au premier round, sincèrement, dans ce combat-là. Puis ça va être mon pick. Ensuite, Carl Roberson, Brendan Allen. Striker versus grappler. Puis écoute, c'est pas... la manière que je vais vous analyser ce combat-là, c'est bizarre, OK? Mais je pense vraiment que c'est ça qui va arriver. Dans le fond, t'as Brendan Allen qui est le grappler, puis qui peut-être, comme la majorité des très, très bons grapplers en MMA, a un peu de la misère à se rendre au sol. Pas le meilleur des lutteurs. Et vraiment pas un bon striker non plus. Puis ça fait qu'il y a de la misère à set-up ses transitions lutte-striking. Fait que non seulement c'est pas le meilleur des lutteurs, mais ses takedowns sont très, très, très évidents quand il shoot. Ça fait qu'ils sont faciles à défendre. Carl Roberson, c'est le striker qui est quand même un bon lutteur. C'est ça ici pourquoi je pense que le pick évident, c'est Carl Roberson. Parce que c'est un bon lutteur. C'est un excellent striker. Il va absolument light up Brendan Allen debout. Mais l'affaire, c'est que Brendan Allen s'est jamais fait knocker clean. C'est un gars qu'il faut que tu mettes beaucoup de dommages sur lui si tu veux réussir à le finir, comme on l'a vu contre Sean Strickland là, notamment. Et puis, il va avoir ses opportunités là, up close de juste grab Carl Roberson puis d'essayer de le take down. Mais écoute, la raison pourquoi je pick Brendan Allen par soumission ici dans ce combat-là, c'est tout simplement, puis pourquoi que je vous disais que c'était bizarre mon analyse, c'est que Roberson, c'est un gars que tu peux absolument sortir de sa game. C'est le genre de striker que si tu luttes assez, puis t'approches assez le combat d'un point de vue du grappling, tu peux complètement le sortir de sa game, puis il peut devenir un lutteur. Genre, straight up, il peut devenir un lutteur, puis... C'est la pire affaire qui ne peut pas arriver ici parce que je vous le dis, s'il se retrouve au sol contre Brendan Allen, il peut se faire soumettre dans le tour. Brendan Allen est vraiment un bon grappler. Il va être capable de le sweeper, va être capable d'assez des soumissions dans le tour, va être capable, même si c'est Carl Roberson qui va chercher les takedowns, de gagner les échanges de grappling. Puis j'ai l'impression que s'il est juste assez persistant avec son grappling, même si ça ne marche pas nécessairement ses takedowns, c'est Roberson qui va le takedown au final parce qu'il va tellement le sortir de sa game que Roberson va dire « Ok, on grapple maintenant. Moi, je suis un bon grappler. Je ne suis pas stressé avec ça. On peut grapple. » Puis il va grapple avec Allen puis il va se faire soumettre. Fait que c'est ça ma prédiction. Brendan Allen, soumission, round 2. Ensuite, c'est le retour du Canadien Tristan Connolly en action. Face à Pat Sabatini, tout un test pour Tristan Connolly là, dans ses débuts à 145 livres. Parce que oui, Connolly est arrivé dans l'UFC sur short notice. S'est battu à 170 contre Michel Pereira. On s'en souviendra tous qui est le plus gros 170 livres à peu près sur tout le roster. Donc, c'est basically battu contre un middleweight là, ce soir-là. Et puis ensuite, il y a eu un accident d'auto, là, malheureusement, un gros accident, une opération au cou et tout. Une grosse opération majeure. Puis là, on va revenir à 155. Oui, c'est toujours battu. Maintenant, on revient à 145, drop de deux divisions, puis pas moins de, quoi, genre 25 livres, 35 livres, 4, 5, 6, 7, ouais, 30 livres. 30, 25. Sacrifice, Faber, là. Les mathématiques, pas fort fort, mais oui, de 145 à 170. So, énorme coupe de poids. Il a fait le poids, tout est beau là, pour Tristan, par exemple. C'est pas, ça n'a jamais été un gros 155, puis il n'était jamais proche d'être un 170 livres. Fait que c'est vraiment en fait une coupe de poids d'une division, mais vu qu'il se battait deux divisions plus haut à son premier combat, ça a l'air d'être une méga coupe de poids, mais ça ne l'est pas. Je ne sais même pas s'il va être plus gros que Pat Sabatini, puis... Ah, pourquoi je vous parle pas du match-up? C'est parce que le match-up me fait chier pour Tristan. Parce que Tristan, c'est un malade mental. Il est boss to the world. C'est pas un combattant athlétique. On l'a vu là, contre Michel Pereira. C'est pas quelqu'un qui va arriver là avec son athlétisme, sa puissance, son explosivité. C'est juste un hard-nosed action fighter qui est bon partout. Puis qui va y aller, parce que c'est sa seule manière de gagner, c'est d'y aller, puis d'aller de l'avant, puis d'essayer d'être agressif, puis d'échanger avec son adversaire, puis de rendre ça le plus laid possible, le plus dirty possible. Tu veux que... Tu verras jamais Tristan Connolly rester à range puis pick up son adversaire comme ça. C'est pas quelque chose qu'il va faire. Faut qu'il rende ça dirty, faut qu'il aille à l'intérieur, faut que ça l'échange, faut qu'il réussisse à lander des takedowns, out-grapple son adversaire. Puis le problème ici, c'est qu'il se bat contre Pat Sabatini, qui est basically genre le lutteur vraiment très très bon qui se battait pour CFFC, qui a déjà 16 combats pro. Et puis, qui dans toute sa carrière, il n'a perdu qu'une seule fois par soumission. C'est une soumission vraiment bizarre qui s'est faite passer par un très bon grappler, puis que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment se répéter. Fait que malheureusement, dans ce combat-là, je pense que Tristan Connolly va être victime de beaucoup de takedowns, puis va passer beaucoup de temps en dessous de Pat Sabatini à pas avoir le meilleur moment de sa carrière, mettons. Fait que j'ai une Pat Sabatini dans ce combat-là par décision. Et ça nous mène au Prelim Fight Pass, où je peux vous résumer tous ces combats-là de par nouveau prospect asiatique contre combattant récent dans l'UFC qui n'a pas beaucoup de chances de devenir un très bon combattant un jour. Et le premier de cet exemplaire, c'est Dana Badgerel face à Kevin Natividad. Puis Dana Badgerel a déjà deux combats dans l'UFC, c'était battu. Je me rappelle plus contre qui, puis il avait perdu, mais ça avait été très serré, ça avait été un bon combat. Puis je m'étais dit, il est quand même prometteur, Dana Badgerel, qui est un Mongolien, d'ailleurs, qui n'est pas un Chinois comme les trois autres, de qui on va parler après. Mais c'est ça. Badgerel, Dana, très bon combattant complet, qui est prêt à se battre, là, vraiment. Il me fait penser un peu à Li Jingliang, avant qu'il soit un bon striker, va essayer de mettre beaucoup de pression et game d'échanger debout, et game d'aller au sol, et game de tout faire, même si des fois, c'est peut-être pas ce qu'il... Je pense qu'il sera avantagé à rester debout, là, généralement, dans ses combats. Mais le gars, il est vraiment trop willing de se battre dans toutes les phases. Puis, face à Kevin Natividad, qui est un peu ça aussi, là, malheureusement. Tu sais, genre de... Ah, j'aime pas ça parler de même. Genre de fighter qui a pas beaucoup d'identité. Là, que tu le regardes, tu diras pas « Ah oh oui, Kevin Natividad, le gars qui fait telle affaire. » Non, tu le regardes puis il a vraiment l'air d'un fighter créé dans UFC et Sports 4 avant que tu pognes les meilleurs dans la division. Là, que oh, il fait tout. Il est compétent dans tout. Il n'est pas excellent dans rien. Lui avec, je pense, va préférer striker, ce qui risque de nous donner quand même un bon petit combat back and forth là, entre ces deux-là, mais... Personnellement, je pense que la personne qui a le plus d'outils, la personne qui est un peu plus prometteuse, puis la personne qui m'en a montré un peu plus à date, c'est peut-être parce qu'il y a deux combats contrairement à l'autre, il y en a juste un dans l'UFC, mais c'est Dana Badgerel. Donc, j'ai Badgerel par décision ici. Ensuite, ça risque d'être le fun. Kazula Vargas face à Rong Zhu. Rong Zhu qui a 21 ans. Il a 17 victoires, 3 défaites. Donc, déjà 20 combats pro. Tu vois que la manière de développer les prospects en Chine, c'est pas comme en Amérique. Tu as beaucoup de très bons prospects qui arrivent comme Song Yadong avec déjà 3, 4 défaites à leur fiche, puis comme 28 combats pro en 3 ans de carrière. Tu te demandes comment ça arrive, mais bref. Rong Zhu, on fait un peu penser à Song Yadong, peut-être un petit peu moins athlétique que lui, ce qui n'est pas grave. Tu peux être très athlétique tout en étant moins athlétique que Song Yadong. Là, on s'entend que c'est un des freaks là, dans l'UFC, le côté spécimen physique. Mais je te dirais que c'est la version vraiment très kickboxer de Song Yadong. C'est pas quelqu'un qui aime tant se battre au sol, même si des fois on va le voir aller chercher des takedowns, puis tout, c'est pas le combattant le plus à l'aise, là. C'est pas le combattant qui, s'il se retrouve dans des échanges de grappling prolongés contre un meilleur grappler que lui, va complètement se mettre dans la merde. L'affaire ici, c'est que ça ne devrait pas tant arriver contre Kasula Vargas, parce que Kasula Vargas, c'est un autre complet malade mental, un action fighter absolument débile, qui, oui, va lander des takedowns, mais va lander des takedowns genre par principe que c'est quelque chose qu'on fait en MMA généralement. Genre, on ne va pas lander des takedowns parce que ça va l'aider à gagner son combat ou parce que c'est l'ajustement stratégique à faire dans ce moment-là. Non, non, ça va vraiment être random, va arriver avec une combinaison puis va shooter takedown après sa combinaison parce que c'est ça qu'il a drillé dans le gym pendant des mois, basically. Puis même si c'est pas son avantage de se retrouver au sol, il va aller au sol puis il va essayer d'être autant un malade mental quand il se bat debout. Donc, je pense que ça va être un bon combat. Je pense que c'est clairement l'avantage du Chinois, le Rong Zhu, qui est beaucoup plus droit dans ses techniques, beaucoup plus beau, beaucoup plus fluide. Et puis que, tu sais, Vargas pourrait rendre ça intéressant avec une coupe de takedown. Je ne sais pas s'il y a le grappling pour vraiment faire compter son grappling dans ce combat-là. Donc, j'ai Rong Zhu par décision et ça nous mène à un autre très bon combat. Aori Killeng, Jeff Molina. Et puis ici, c'est tellement un combat que je piquerais en faveur de Molina dans toute autre division, mais c'est un combat flyweight. Puis Jeff Molina, c'est un gars de Glory MMA en plus. Fait que, James Krause, ça nous amène vraiment des bons combattants après avec des game plans qui sont efficaces dans tous les aspects de la game. Mais comme beaucoup de ses compatriotes de Glory MMA qui sont plus des vétérans, Jeff Molina n'est pas un très bon athlète, puis j'ai l'impression qu'à flyweight, c'est la division où ça passera pas. T'sais, dans beaucoup de divisions, tu peux arriver et ne pas être un excellent athlète, mais d'avoir une belle game stratégique et bien organisée, qui un aspect va te mener à l'autre aspect, qui va te mener à l'autre aspect, puis que tout ça coule bien un dans l'autre pour créer un beau tout complet qui fait de toi un bon combattant complet difficile à affronter, même pour des gars très athlétiques et très dangereux. Flyweight, tout le monde est hyper athlétique, tout le monde est une machine à scramble, une machine à lutte, une machine à rapidité, une machine à pace, puis à pousser un pace complètement ridicule, puis lancer beaucoup de volume sans ne jamais se fatiguer, puis c'est comme tout ce petit côté athlétique-là qui a fait que Molina va avoir de la misère à suivre. Basically, il va avoir de la difficulté à suivre dans cette division-là. Puis c'est plate parce que je ne le vois pas vraiment se battre à 135 livres non plus. Il ne sera vraiment pas assez gros pour cette division-là. Puis Aori Killeng, lui, il y a toutes sortes d'autres problèmes qui sont plus de nature John Lineker-esque. Le gars va absolument défendre tous les coups de poing avec sa face pour essayer de lancer des meilleurs. Puis selon moi, ça sera un problème dans beaucoup de combats, même à flyweight, parce que tu as, comme je l'ai dit, de très bons athlètes qui sont capables de te counter solidement, puis de te faire, tu sais, très, très mal sur le counter, puis de te faire compter le counter. Dans ce combat-là ici, cependant, j'ai aucun doute que Molina va counter Killeng. Je pense pas qu'il va réussir à faire compter le counter. Je pense pas qu'il va y faire mal. Puis j'ai vu, écoute, il n'y a pas beaucoup de tape là, sur Aori Killeng, mais ce qu'il y a, c'est assez mongol, merci. Le gars, c'est le genre de gars que tu le vois se faire counter, puis se faire counter, puis se faire counter, parce que, genre, il se bat pas comme un Chinois, il se bat comme un Coréen. Genre, il va de l'avant, mais extrêmement de pression, défend tous les punches avec sa face, puis essaie de te frapper plus fort en retour. Puis, dans la majorité des combats que j'ai vus, ben, ça a marché pour lui. T'sais, fait que j'ai de la misère à voir Jeffrey Molina réussir à gagner ce combat-là, malheureusement. Donc, j'ai Killeng par décision. Ça nous mène au dernier combat de la soirée. Liang Na, Ariane Carnell aussi. Puis Sina, ben, j'aime beaucoup Liang Na parce qu'elle s'accroche la pull guard à la CD Amber dans dessous sans arrêt. C'est pas une game, on l'a vu là. On a vu les Maria Agapova puis les Julia Sterliarenko, comment cette game-là ne marche juste pas dans l'UFC. Fait que je m'attends pas à ce que ça marche pour Liang Na non plus. Surtout contre Ariane Carnell aussi, que c'est bizarre parce que t'as Na qui c'est un combat à 115 livres, ça. Puis t'as Na qui se battait souvent à 125 livres, puis qui va être la combattante là, de 5 pieds 9, vraiment grande, puis qui va avoir l'air la plus grosse des deux. Mais quand tu regardes le style de combattant, la combattante qui se bat comme une grosse combattante physique et athlétique, c'est Ariane Carnel aussi. Là. Puis je la vois très mal tomber dans le game de Liangna. Puis juste, ah oui, c'est bon, tu veux pull guard puis essayer des armbars, vas-y, essayer des armbars jusqu'à temps que tu me pognes. Ça me surprendrait bien gros. Je pense que Na va se retrouver beaucoup debout dans ce combat-là. Puis c'est direct là qu'elle ne gagnera pas. Fait que j'ai Carnel aussi ici par décision. Et puis, ça va conclure mes analyses et positions complètes pour la carte de l'UFC 261, pour laquelle, peut-être après en avoir parlé, j'étais un peu plus hype qu'au début, mais quand même, une carte modérée, je vous dirais. Fait que laissez-moi faites-moi part de vos commentaires, c'est-à-dire dans les commentaires, parce que c'est à ça que ça sert, la section des commentaires, c'est pour faire des commentaires. Donc faites vos commentaires, laissez-moi un like, abonnez-vous à MMA Talk sur toutes les plateformes, et on se parle une prochaine.